France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Louise Cognard, Sacha Mattei, Anouk Evno et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le dernier volet de notre série consacrée à la stratégie de la Chine face aux reconfigurations géopolitiques déclenchées par Donald Trump. Nous avons évoqué l'amitié que Pékin consolide avec la Russie, ses promesses à ses voisins d'Asie du Sud-Est, hier les liens qui se resserrent avec l'Europe, aujourd'hui en Amérique latine, les nouvelles routes des affaires.
Un poème chinois dit « La vie est joyeuse quand les cœurs se comprennent ». Par ailleurs, un proverbe latino-américain nous rappelle que celui qui a un ami possède un trésor. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine restera un ami sincère et un partenaire de confiance pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
Pour construire un avenir commun, il est nécessaire de réduire les asymétries entre nos pays. Il est indispensable que la coopération entre la CELAC et la Chine contribue à renforcer l'industrie manufacturière et l'innovation au niveau régional.
Je pense que cette position de paria, ainsi que le fait d'être constamment relégué au second plan derrière les États-Unis, appartiennent désormais au passé. Nous devons regarder des deux côtés. Avec Xi Jinping, nous avons trouvé un allié. Sans aucun doute, l'humanité a un allié.
Nous devons regarder des deux côtés, disait le président colombien Gustavo Petro après une courte promenade sur la grande muraille de Chine, sa vue à 360 degrés et ses torticolis. C'était le 13 mai lors d'un forum organisé par Pékin avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, à 11 000 km de Washington, dont il était bon, semble-t-il, de s'éloigner pour un temps. Gustavo Petro n'était pas le seul à faire le déplacement. Le président Lula pour le Brésil, Gabriel Boric pour le Chili, étaient présents comme pour témoigner physiquement de leur rapprochement avec la puissance chinoise ou en tout cas de leur refus de rester dans l'arrière-cour des États-Unis où Donald Trump et son équipe continuent à les reléguer, ce qui par ailleurs ne les dispense pas de surtaxes douanières, même si moindre par rapport à d'autres, de l'ordre de 10% pour ceux qui sont concernés. C'est donc le moment idéal pour la Chine de se montrer attentionnée vis-à-vis du continent. Investissement, infrastructure, transfert de technologies. Pékin propose sa panoplie habituelle à des pays qui en manifestent par ailleurs le besoin. Si la plupart des États latino-américains entretenaient déjà de bonnes relations avec la Chine, ce n'est pas le cas de tous. Pour la Colombie, par exemple, c'est nouveau. La guerre commerciale sino-américaine peut-elle finalement profiter et à l'Amérique latine et à la Chine dans ses relations avec elle? Bonjour Sébastien Velu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, l'IHEAL. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes membre de la rédaction du Monde diplomatique, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Amérique latine et Caraïbes. Et vous avez coécrit avec Didier Billion « Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde » aux éditions Agone. Il y a deux ans, en 2023. Alors, d'abord, lorsqu'il a été organisé il y a deux semaines à Pékin, ce forum Chine-CELAC pour Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes est passé, relativement inaperçu, en France. Avant d'entrer dans les généralités énoncées pendant ce sommet, les déclarations de bonne volonté sur une coopération plus poussée entre la Chine et le continent latino-américain, la Colombie, en particulier, a profité de cette rencontre pour acter sa décision de rejoindre les nouvelles routes de la soie. C'est pas vraiment une annonce, me semble-t-il, Christophe Ventura, c'est plutôt une confirmation, mais un accord a été signé. De quoi s'agit-il ?
Ben effectivement, ce forum qui était le quatrième forum CELAC Chine au niveau des ministres qui venait fêter les 10 ans d'ailleurs de la fondation de ce forum, enfin même les 11 ans puisque c'était en 2014 que ce forum entre la Chine et les pays latino-américains était lancé, a donc l'une des annonces a été précisément l'intégration de la Colombie dans la nouvelle route de la soie, ce qui fait de la Colombie le 22e pays latino-américain à être dans ce large programme, ce vaste programme d'infrastructures labellisé et financé par Pékin. Ça aurait pu être le 23e si le Panama n'avait pas, lui, fait marche arrière du fait des pressions de Trump, mais c'est un autre sujet. En tout cas, maintenant, c'est le 22e pays. Alors, c'est pas effectivement tout à fait nouveau, hein, puisque les relations entre la Colombie et la Chine sont croissantes depuis assez longtemps. La Chine est d'ores et déjà le deuxième partenaire commercial de la Colombie. C'est son deuxième marché d'exportation, où elle y exporte pas mal de pétrole, de café, de fer aussi, de minerais.
Et de plus en plus de café, il paraît que... Chine en boit de plus en plus de café.
Tout à fait. Bah oui, avec l'émergence des classes moyennes chinoises qui sont plus de 500 millions maintenant dans le pays, qui ont des modes de vie tout à fait similaires aux nôtres, hein, enfin ceux des classes moyennes dites occidentales. Donc le café devient effectivement une boisson prisée par une partie des Chinois, les minerais, etc. Et pour la Chine, c'est le cinquième partenaire latino-américain, la Colombie, d'ores et déjà. Alors quel est l'enjeu ? Il y en a plusieurs, mais le central, je crois, c'est que Gustavo Petro veut aujourd'hui, pour un petit peu ennuyer Washington, et montrer qu'aujourd'hui la Colombie n'est plus exclusivement mariée aux États-Unis, alors que c'était l'allié par définition de référence. C'est un peu Israël pour le Proche-Orient en Amérique du Sud, la Colombie depuis l'après Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, ça c'est un peu terminé. L'idée c'est quoi pour Petro ? C'est de, il voudrait positionner la Colombie comme un pont entre l'Europe et l'Asie, dans le sens Europe, Amérique latine et Chine, parce que précisément sa position géographique lui permet de le faire entre l'Atlantique et aussi sa frontière panaméenne avec le couloir Pacifique cette fois-ci. C'est ça l'enjeu, disons, géographique, géostratégique de cette adhésion aux nouvelles routes de la soie.
Et dans cette géographie, cette géostratégie, il y a un port et cette annonce début février par le ministre colombien du commerce d'un projet de route maritime entre Shanghai et le port de Buenaventura, donc sur la côte ouest pacifique, évidemment, au nord-ouest de la ville de Cali. Sébastien Velu, un projet de route maritime, c'est pas comme un projet d'autoroute ou de voie ferrée. Une route maritime, il suffit de la suivre. Alors certes, il faut parfois construire, parfois réorganiser des ports. Celui de Buenaventura, quelle taille fait-il ? Quelle est sa capacité ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'attend la Chine et la Colombie de cette route Shanghai-Buenaventura ?
Comme le disait Christophe il y a quelques minutes, il y a effectivement un enjeu de développement des relations commerciales entre la Colombie et plus largement, disons, la partie nord-ouest de l'Amérique du Sud et la Chine. Et donc ce projet de port et de route maritime, il s'inscrit dans cette logique. Mais les ports colombiens, les grands ports colombiens, actuellement, c'est plutôt des ports sur la mer des Caraïbes, hein, comme Cartagena de India, par exemple, qui est un des principaux ports industriels et commerciaux de la Colombie. Et donc, il y a l'idée, semble-t-il, de rebasculer davantage de trafic sur la côte pacifique, et donc avec l'idée d'aller plus facilement vers l'Asie. Alors, le port de Buenaventura, c'est un port relativement modeste actuellement, donc ça veut dire probablement aussi des investissements considérables pour agrandir ce port, puisque, comme vous venez de le dire, annoncer l'ouverture d'une route maritime, ça coûte pas très très cher. Mais quand on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans la réalisation d'infrastructures, là, ça peut être des investissements importants. Et d'autre part, comme cela a été dit également, bon, la Colombie, elle a une position géographique charnière parce que c'est un des rares pays qui a les deux façades, la façade maritime sur la mer des Caraïbes et la façade pacifique. Ça, déjà, Élisée Reclus l'avait souligné il y a plus d'un siècle. Mais elle ne joue pas du tout ce rôle de pivot entre les deux parties du monde, si je puis dire. Et par conséquent, on comprend que le président Petro souhaite jouer cette carte géopolitique. Mais le président Petro, c'est quelqu'un qui est très visionnaire, qui a beaucoup d'idées, mais il a parfois un peu de mal à mettre ses idées en pratique. Donc il y a une question, disons, du décalage entre les discours, les accords, les photos, et puis ce qui va réellement se passer sur le terrain pour un mandat qui, en plus, va bientôt s'achever.
Là, il s'achève dans un an, je crois. En tout cas, la réélection, la prochaine élection présidentielle, c'est dans un an.
Oui.
En tout cas, même si lui ne met pas tout de suite en pratique ce qu'il dit, un grand bateau n'a pas attendu qu'il le lui demande, le bateau Sine Hong Kong, pont construit par l'entreprise Cosco et qui peut transporter 50 000 containers a fait une entrée dans le port de Buenaventura juste après cette annonce par le ministre colombien du Commerce en février de cette nouvelle route maritime. La Colombie, même si avant l'élection de Gustavo Petro, la Colombie était plus proche des États-Unis, néanmoins la Chine investissait déjà, Christophe Ventura, dans plusieurs infrastructures colombiennes, y compris à Bogota, des infrastructures urbaines.
Oui, tout à fait. Par exemple, enfin, je pense que vous faites référence au métro de la capitale de Bogota, qui est un des métros les plus, enfin les plus imposants, enfin les plus importants des capitales sud-américaines.
Le centre-ville est toujours en chantier de Bogota, d'ailleurs.
Il est toujours en chantier, oui, à ma connaissance. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une œuvre d'ampleur hein, que les Chinois font dans une ville où justement toutes les, enfin les mégapoles sud-américaines, Bogota en est une parmi les autres.
À 2600 mètres d'altitude, c'est
D'altitude, souffre de ces questions de transport, c'est absolument vital. Un des problèmes de ces mégapoles, c'est justement le manque d'infrastructures en matière de transport collectif qui ont des effets sur beaucoup de choses, hein. Bien sûr sur la vie quotidienne des gens, sur les inégalités territoriales, sociales, enfin toute une série de choses, mais aussi sur l'impact climatique, parce que c'est un des éléments qui fait que les villes sont congestionnées d'automobiles qui sont souvent pas très bien réglées et qui jouent dans les gaz, etc. Donc la question des transports publics, elle est absolument centrale, y compris dans la transition, j'ai envie de dire, énergétique et climatique des pays latino-américains. Donc les investissements chinois en la matière sont sans égal. Et c'est vrai que l'exemple du métro de Bogota, c'est l'exemple d'un projet qui est en train de réussir dans des conditions compliquées. Une mégapole, 2600 mètres d'altitude, une zone montagneuse, les Andes, etc. Donc oui, c'est pour revenir un peu au fond de votre question, bien sûr, il est clair qu'il faut voir cette adhésion dans les nouvelles routes de la soie, non pas comme un point de départ ou une nouveauté qui tomberait, enfin comme une météorite comme ça qui tomberait dans les relations entre la Colombie et la Chine, mais c'est plutôt un développement, c'est une nouvelle étape en fait d'une relation qui s'est déjà largement engagée depuis, un peu à l'instar des autres pays latino-américains d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui est le fruit d'une quinzaine d'années en fait, hein, de montée en puissance de la Chine dans tous ces pays-là, la Chine qui offre, on va en reparler, mais beaucoup de choses aux pays latino-américains qu'ils recherchent et aujourd'hui cette intégration dans la nouvelle route de la soie, c'est cet élément. Alors il faut aussi dire que la nouvelle route de la soie, c'est pas forcément une sorte de planification vraiment très organisée, hein, de la part des Chinois. Je le disais tout à l'heure d'une formule, mais c'est plutôt un label, hein, les nouvelles routes de la soie. C'est un label, c'est des prêts, c'est des financements chinois pour des projets qui ne répondent pas encore réellement, je veux dire, à une sorte d'organisation. C'est pas un squelette vraiment très précis, c'est plutôt une sorte de bourse aux projets d'infrastructure qui répondent à toutes les questions qu'on traite, énergie, transport, etc., etc. Puis surtout pour les Chinois derrière, qui leur permettent de sécuriser les lignes d'approvisionnement des matières premières et des ressources naturelles qu'ils aspirent en quelque sorte de l'Amérique latine. Donc ça oui, mais du coup l'entrée de la Colombie aujourd'hui dans ce schéma nous dit pas encore exactement de ce qui va se passer en Chine en matière de connexion du pays avec disons le reste des pays sud-américains et la Chine. Il va falloir attendre un petit peu.
On a déjà eu l'occasion dans Culture Monde, dans une série qu'on avait consacrée aux relations entre la Caraïbe et les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump, de parler de cette passe d'armes qu'il y avait eu quand Donald Trump avait menacé la Colombie d'imposer des droits de douane de 25 voire 50% sur les importations parce que Gustavo Petro ne voulait pas laisser atterrir à Bogota deux avions militaires états-uniens transportant des migrants expulsés. Il avait finalement trouvé un terrain d'entente avec Donald Trump. Il était d'accord pour rapatrier des personnes en situation irrégulière dans des avions colombiens et dans le respect, disait-il, de la dignité humaine. On en avait longuement parlé. Il avait à ce moment-là, Sébastien Velu, dit Gustavo Petro, de toute façon, les Chinois vont manger nos avocats et notre cacao. Sous-entendu, on n'a plus besoin de vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté de réorienter les exportations colombiennes vers la Chine, alors même que Donald Trump a renoncé à ses surtaxes douanières en ce qui concerne la Colombie?
Je crois qu'il faut distinguer quel type d'exportation on veut parler, mais c'est clair que pour les marchés des produits agricoles, comme on l'a déjà dit et comme ça s'est déjà vérifié par le passé, la Chine c'est un marché absolument énorme. Pour les produits traditionnels du type le café, plus que le cacao hein, en Colombie, qui est depuis une centaine d'années une des matrices hein, de l'agriculture colombienne, mais Au-delà de cela, il y a des projets portés notamment par des groupes chinois de production alimentaire à grande échelle, parce que la Colombie, c'est un pays où il reste encore beaucoup de territoires qui sont, disons, peu exploités, ou dans lesquels on pourrait espérer produire davantage de céréales, de soja, peut-être du riz, de la viande. Et là, ça, c'est une production qui serait certainement intéressante à exporter pour la Chine, malgré tous les problèmes que ça pose dans ces régions de mettre en culture, de défricher, de déforester, de construire des routes. Donc il y a quand même aussi un gros enjeu environnemental. Après, il y a une exportation colombienne qui est importante, c'est l'exportation des produits illicites, c'est-à-dire la cocaïne, qui, elle, continue à voyager vers les États-Unis. Et évidemment, rentre pas dans le cadre du commerce international régulé. Et donc, avec ou sans droit de douane, ce commerce, je pense qu'il a de beaux jours devant lui.
À voir si ce commerce-là prendra lui aussi la route maritime qui va lier donc Shanghai et Buenaventura. Cette nouvelle route qui permettra d'atteindre le marché chinois en 25 jours en passant par le port de Shanghai, c'est comme ça qu'on dit, au Pérou. C'est au nord de la capitale Lima, lui aussi construit par Costco Shipping et inauguré en novembre dernier par le président chinois et son homologue péruvienne Dina Boluarte.
La inauguration del megapuerto de Chancay que tenemos el honor de liderar.
L'inauguration du mégaport de Shanghai que nous avons l'honneur de célébrer ensemble avec le président Xi Jinping est un moment historique pour le Pérou et pour tous les Péruviens. Avec ce mégaport, nous entamons une transformation qui consolidera le pays comme un centre logistique, technologique et industrielle à l'échelle mondiale et qui nous projettera de manière stratégique dans la région Asie-Pacifique.
Inauguration en novembre dernier donc du port de Shanghai au Pérou par la présidente péruvienne. Est-ce qu'il est déjà opérationnel ce port, Christophe Ventura?
Oui, il a démarré, mais il n'est pas encore au maximum. Je crois sur 3 ans pour atteindre, disons, le maximum de conteneurs par jour qui doivent y transiter. Alors de tête, je crois qu'on est l'objectif, c'est d'arriver à 3-4 millions par jour. On n'y est pas encore. Ils doivent être à, je crois, moins à 1,5, quelque chose comme ça. Mais c'est de tête.
Pour l'instant, les chiffres annuels.
Ouais, les chiffres annuels.
Oui. J'ai dit par jour, pardon, oui. Annuel.
Oui, ça faisait beaucoup.
Oui, excusez-moi. Non, annuel.
4 quais ont ouvert pour l'instant. Il y en a jusqu'à 15 sont prévus. Voilà. Mais voilà, vous disiez, il est pour l'instant opérationnel.
Il y a un développement sur 3 ans, normalement, pour que le port atteigne son objectif maximal.
C'est alors, un port en eau profonde, donc les plus gros cargos peuvent...
Voilà, les plus grands cargos, les Panamax, enfin les plus grands bateaux qui peuvent acheminer donc les fameux containers, c'est les plus gros qui peuvent arriver dans ce port. En gros, pour résumer, alors un peu de publicité, on a fait proposé une enquête dans le monde diplomatique sur ce port et sur là où on en est et tous les débats qu'il y a autour, parce qu'il y en a beaucoup, de débats autour du port de Shanghai. L'idée pour les Chinois, grosso modo, c'est de tirer une ligne droite entre Shanghai, justement, et l'Amérique du Sud. C'est le passage le plus court. On réduit, je crois que ça fait 17 000 kilomètres, on réduit de là aussi... de quasiment 2 ou 3 semaines le temps de transport, ce qui a évidemment un impact sur le prix des marchandises qui partent de Chine manufacturées, les produits manufacturés chinois qui viennent inonder le marché sud-américain et les fameuses ressources naturelles latino-américaines qui partent, elles, vers Shanghai et absorbées par la Chine. Donc ça a un impact très important sur le coût, un impact à la baisse, donc c'est bon pour le commerce. Et l'idée de faire du port de Shanghai au Pérou, c'est d'en faire, en fait, comme on dit en bon français, c'est le hub, en quelque sorte, c'est la plateforme à la fois d'arrivage de tous les produits sud-américains qui partent là-bas et des produits chinois qui arrivent ensuite sur l'Amérique latine. Alors après, la nouvelle route de la soie là-dedans, elle est importante, encore une fois, schématiquement. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est d'essayer de développer des projets d'infrastructures, transports routiers, ferroviaires, fluviaux, etc., etc., dans tous les pays sud-américains. Mais l'idée, c'est de faire converger de manière un peu plus intégrée ces chemins, ces couloirs, disons, sud-américain, vers le port de Shanghai. Alors, il n'aurait pas le monopole, le port de Shanghai, mais il aurait la plus grosse partie des routes commerciales sud-américaines vers lesquelles, les produits partiraient. Et il y a un acteur aussi, pour être complet, qui joue un rôle important, y compris par rapport au port de Shanghai et y compris par rapport à la Colombie, mais c'est le Brésil. Parce que le Brésil, qui ne veut pas tout à fait jouer le rôle simplement de sous-traitant chinois, a aussi un projet de développement qui s'appelle Nouvelle Route de l'intégration sud-américaine.
Routière et ferroviaire.
Routière et ferroviaire, c'est ça ce que je disais. Donc en fait, l'idée, c'est que les Brésiliens veulent aussi mettre de l'argent, en quelque sorte, sur la table pour financer les raccordements et disons les connexions et l'interconnexion entre tout ce maillage en fait d'infrastructures dont on parle pour justement par 5 routes principales ramener vers Shanghai les productions sud-américaines, mais à commencer par les brésiliennes, parce qu'il n'aura échappé à personne que le Brésil a un souci, il n'a pas d'accès au Pacifique, lui, mais c'est le premier exportateur de ressources naturelles vers la Chine. Et donc l'idée du Brésil, c'est qu'ils veulent s'aménager des routes qui permettent aux exportations brésiliennes d'abord de partir vers le Pérou pour ensuite aller vers la Chine.
Donc via ce port de Shanghai à Shanghai en Chine, avec donc des intérêts mutuels côté Amérique latine, permettre aux pays andins d'écouler plus facilement leurs produits agricoles, leurs minerais. Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cuivre et en exporte près de 70% vers la Chine. Et pour la Chine, consolider sa route maritime pacifique vers la façade chinoise. Comment la Chine a-t-elle obtenu, Sébastien Velu, ce port par le gouvernement péruvien, par quels arguments, quelles discussions, comment ça s'est passé?
Je crois que ce qu'il faut voir dans l'action de la Chine vers les pays d'Amérique latine, c'est que la Chine arrive avec des propositions intéressantes parce qu'elles sont solides, elles sont fondées sur une capacité d'ingénierie, il y a une capacité à investir, il y a une capacité à développer des activités derrière. Et donc, on fait les choses. Et en Amérique latine, il y a un grand problème avec tous ces projets d'investissement depuis des décennies. On en parle beaucoup, mais on n'en fait pas autant qu'on en parle. Et avec la Chine, les pays latino-américains ont enfin l'impression qu'ils ont un partenaire avec lequel réaliser un certain nombre de projets. Donc ça, c'est un argument majeur. Et puis, comme vous le venez de rappeler par rapport au Pérou, il a connu un boom minier absolument spectaculaire depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que notamment pour le cuivre, l'argent, l'or, un certain nombre de métaux, la croissance de l'activité minière est exponentielle. Et donc, il faut créer des débouchés et pouvoir exporter cette production.
Et une instabilité politique, mais qui ne l'a pas empêché manifestement d'avoir des interlocuteurs pour parler avec la Chine, parce qu'il y a plus... Enfin, si, il y a la vice-présidente de Pedro Castillo qui a été destituée en fin 2022, je crois, a pris sa place. C'est elle qu'on a entendue tout à l'heure pour l'inauguration du port de Shanghai. Mais il y a une instabilité politique telle au Pérou qu'on se demande presque qui a pu mener ces négociations.
Oui, non, il y a un mystère péruvien, mais en dépit de l'instabilité politique, les affaires continuent. Et ça fait déjà quelques années que c'est comme ça.
Donc ce port de Shanghai a été inauguré il y a quelques mois. Le Brésil, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe Ventura, compte bien s'en servir, même s'il a, de son côté, lancé son propre programme des nouvelles routes d'intégration sud-américaine. Le Brésil ne fait pas partie des routes de la soie, mais il est très intéressé par ce partenariat avec la Chine, comme l'explique ici la ministre brésilienne de la planification et du budget.
Le Brésil ne dispose pas des investissements ou des ressources publiques suffisantes. Il n'y a pas assez d'argent pour construire un chemin de fer et un pays avec tant d'inégalités et tant de besoins à d'autres priorités. Nous avons besoin de partenariats avec des investisseurs privés, brésiliens et étrangers. Qui, aujourd'hui, a intérêt à le faire? Notre plus grand partenaire commercial, la Chine, parce qu'elle y gagne aussi. Donc, faire venir des groupes chinois ou des hommes d'affaires chinois en tant que consortium est une très bonne affaire pour le Brésil.
Comment comprendre, Christophe Ventura, cette position ambivalente du Brésil qui à la fois se montre très avenant et ouvert avec la Chine, mais qui ne fait pas partie des nouvelles routes de la soie et qui, manifestement, ne souhaite pas en faire partie?
C'est une question de statut géopolitique. Le Brésil, comprend très bien la situation. Quelle est la situation du Brésil? Il est historiquement la puissance régionale latino-américaine. C'est la puissance qui, en général, développe ce qu'on appelle là-bas une hégémonie consensuelle. Il doit jouer un rôle de puissance globale. La Chine est à la fois son allié incontournable pour mille raisons. Encore une fois, on peut prendre plusieurs points d'entrée. Bien sûr, le commerce. Là aussi, comme tous les pays sud-américains, la Chine, c'est le premier partenaire commercial du Brésil. Brésil. Le Brésil est le seul pays de la région qui a un excédent commercial avec la Chine. Hein. C'est-à-dire que c'est le seul qui vend plus de choses à la Chine que la Chine ne lui en vend. Donc il y a une position de force aussi brésilienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Chinois ont vraiment besoin des Brésiliens, de leur soja, de leur viande, de leurs minerais, etc. Parce qu'ils comptent, le Brésil, pour eux, c'est le pilier de leurs importations alimentaires. La Chine a besoin de nourrir une population pour laquelle elle n'a pas les capacités productives. Hein. Donc le Brésil, il est absolument stratégique pour la Chine. Mais donc le Brésil a des cartes en main. C'est la puissance régionale. Il a un excédent commercial. Le Brésil ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Malgré, aujourd'hui, on parle de ça, on focalise sur la Chine. Mais en même temps, ils étaient à Pékin pour le fameux forum avec la CELAC. Mais en même temps, il y avait aussi une délégation de patronale des industries brésiliennes qui était à New York, un grand forum des affaires aux États-Unis, parce que le Brésil veut quand même conserver des relations commerciales, politiques et géopolitiques de haut niveau, y compris avec les États-Unis ou les Européens. Ça nous renverra à la discussion sur le Mercosur et l'accord avec l'Union européenne, ce qui n'est pas le sujet du jour. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier que le Brésil, sa stratégie, y compris pour ne pas être trop sous l'influence chinoise et en dépendre, c'est la diversification de ses relations et de ses alliances. Donc ça répond à la question des nouvelles routes de la soie. Le Brésil fait comme les autres pays latino-américains, il signe même plus d'accords bilatéraux avec les Chinois que les autres. À Pékin, ils en ont signé, je crois, 26 encore entre Lula et Xi Jinping. Donc, si vous voulez, le Brésil fait les routes de la soie en vrai. Pratiquement, c'est la même chose. Ils participent au programme, ils ont les financements chinois pour leurs infrastructures, mais eux-mêmes veulent jouer un rôle de puissance, finalement. Et donc, ne pas être dans les nouvelles routes de la soie, c'est ne pas, disons, formellement prendre une décision ou faire un affichage considère-t-il, pourrait en quelque sorte leur poser plus de problèmes politiques dans le cadre de leurs relations avec les autres, c'est-à-dire les États-Unis, les Européens, etc. Donc ils jouent comme ça, les Brésiliens.
Donc le multilatéralisme, maître mot du Brésil comme de la Chine, et d'ailleurs ces deux pays se retrouvent régulièrement au sein des grandes réunions des BRICS. Le Brésil accueillera en juillet le 11e forum parlementaire des BRICS. Donc il y a cet affichage du multilatéralisme. Les investissements chinois au Brésil, Sébastien Velu, ce sont aussi des investissements dans lesquels le Brésil semble avoir réussi à imposer une forme de transfert de technologie. On parle beaucoup de cette usine chinoise du constructeur de véhicules électriques BYD, voilà, qui est aujourd'hui au Brésil, qui a repris l'ancienne usine de Ford dans l'état de Bahia, qui avait fermé, usine abandonnée en 2021 que BYD a reprise. Comment le Brésil a-t-il... est-ce que c'est le seul pays latino-américain qui a cette force-là de négociation avec la Chine pour obtenir des transferts de technologie, une valeur ajoutée?
On entendait en fait au début d'émission le président Lula qui disait exactement ça. Ça n'a pas été traduit, je crois, mais qui disait il faut qu'il y ait aussi de l'industrialisation. Et c'est vraiment un des enjeux de ce commerce entre la Chine et l'Amérique latine, qui a été pointé par un certain nombre d'analystes, hein, que c'est un commerce très inégal, puisque globalement l'Amérique latine exporte des matières premières et importe des biens manufacturés. Et il y a toujours un enjeu de savoir si ça va un peu se rééquilibrer vers davantage d'industrie. Quel est l'avantage du Brésil? La première, c'est la taille de son marché. C'est quand même 200 millions d'habitants à peu près. Alors, c'est moins que la Chine, mais c'est déjà un marché important, avec des niveaux de consommation, notamment de la classe moyenne, qui ont augmenté. Donc, il y a une capacité d'acquisition. Et puis, qui a une structure industrielle qui existe et qui demande ce type d'investissement. Donc, et effectivement, le Brésil, comme on vient de le dire, tout le monde en a plus ou moins besoin. Et là, vous disiez multilatéralisme pour le Brésil, c'est plutôt la multiplication des partenariats bilatéraux. C'est-à-dire que le Brésil, il est capable d'être sur tous les fronts et de jouer aussi avec ses différents partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, non pas en imposant ce qu'ils veulent, mais en tout cas en ayant une capacité à faire valoir leur point de vue, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, bien moins du Pérou ou de l'Équateur, face à des partenaires aussi puissants.
Et notamment, Christophe Antourin, on peut imaginer que le Brésil a un peu élevé la voix face à la Chine, qui lui reprochait longtemps d'avoir contribué à une désindustrialisation de l'Amérique latine, ou une reprimarisation, comme on dit, cet affreux néologisme, pour dire qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée, de transfert de technologie. Or, ça semble être en train de changer.
Oui, je crois que c'est une des évolutions de cette décennie, des années 2020. C'est vrai que l'éboulement de la enfin, la Chine a déboulé en Amérique latine au début des années 2000 à la faveur de son intégration à l'Organisation mondiale du commerce. C'est ça le point de départ. C'est en 2001. Et en quelques années à peine, et le Brésil a été le premier dès 2009, eh ben, elle est devenue, donc, le fameux premier partenaire commercial des pays sud-américains. C'est différent pour le Mexique et les pays centra-américains, mais pour les sud-américains, c'est clair. Donc c'est devenu, à partir du début des années 2010, et après la crise financière internationale de 2008 qui a rétracté l'économie mondiale, la Chine est devenue, je veux dire, vitale pour les exportations sud-américaines. On parle de pays donc qui sont essentiellement des producteurs de ressources naturelles, de produits agricoles, et de produits miniers. Mais le problème de la relation, c'est qu'elle est asymétrique et que la relation Chine-Amérique du Sud, puisqu'on parle de ça ce matin, reproduit en quelque sorte les dépendances sud-américaines qu'ils ont toujours connues avant avec les Européens et les États-Unis. C'est-à-dire, ce sont des producteurs, Sébastien l'a dit, de matières premières à faible valeur ajoutée. Et le problème qu'ils ont, c'est que la valeur ajoutée sur leur production ne se fait pas chez eux. Prenons un exemple concret pour nos auditeurs, le lithium, qui est un des grands sujets stratégiques du moment. Je rappelle que l'Argentine, le Chili et la Bolivie en détiennent plus de la 55% des réserves mondiales du lithium, qui est absolument fondamental pour la décarbonation des transports et des mobilités mondiales. C'est toute l'électrification de la motorisation, etc. Bon, c'est super, sauf qu'en fait, c'est la Chine qui raffine le lithium. Donc la Chine vient pomper, comme font les autres, les Américains, les Australiens et les Français aussi, d'ailleurs, en Argentine. Ils pompent la matière première et puis il la transforme et il lui donne sa valeur ajoutée en dehors du pays. Donc c'est ça le problème qu'ils ont, les Sud-Américains. La relation avec la Chine n'a pas résolu ces déséquilibres. Au contraire, c'est le fameux néologisme de reprimarisation. La relation avec la Chine a accentué les défauts et les limites du modèle de développement économique sud-américain, du Brésil comme les autres. Donc, l'idée, c'est de rendre non pas les économies dépendantes, mais plus interdépendantes avec la Chine. C'est ça l'enjeu de leur discussion. Le Brésil essaye de peser là-dedans, parce que le Brésil, mais on pourrait le faire pour tous les autres pays, il a un problème avec la Chine, c'est que la Chine est à la fois le fameux grand partenaire, l'offre globale face à l'unilatéralisme américain ou, en gros, les velléités d'hégémonie occidentale, si on se place sur le terrain géopolitique. Donc, la Chine, c'est l'allié pour plus de multilatéralisme, etc. Donc c'est l'allié pour plein de choses, c'est le premier marché, etc., on l'a dit, mais c'est aussi des concurrents, les Chinois, pour les Brésiliens. C'est-à-dire qu'ils ont des domaines de compétition, et pour les Brésiliens, les Chinois, ça a signifié pendant trop d'années, eh ben, effectivement, une baisse de compétitivité de leurs propres industries aux Brésiliens. Ils se sont fait, pardonnez-moi l'expression, mais manger sur leur propre marché par les produits chinois beaucoup moins coûteux, beaucoup plus performants que ce que produisent les Brésiliens en matière industrielle. Donc les Brésiliens, ils veulent rééquilibrer ça. Donc c'est l'enjeu qu'il y a en ce moment, et je pense, pour pas être trop long, que les Chinois l'ont compris, parce qu'aujourd'hui les Chinois, dans leur nouvelle approche et les nouveaux contrats qu'ils signent avec les Américains tous azimuts, en fait il y a beaucoup plus aujourd'hui d'attention à cela. Les Chinois investissent, forment des mains d'œuvre sur place très qualifiées. On n'est plus au temps où les Chinois arrivent avec leur propre main d'œuvre et travaillent. Maintenant, les Chinois arrivent, financent, forment des gens localement, des cadres, des ouvriers qualifiés sur plein de secteurs de production pour que, disons, le marché local puisse émerger. Et ils font, vous l'avez dit, du transfert de technologies qui permettent normalement à ces pays-là de commencer à pouvoir développer des secteurs industriels propres. Vous parliez de BYD sur la motorisation électrique. Quel est l'enjeu? Le président Lula l'avait dit. C'est que normalement, cette coopération doit permettre au Brésil, dans pas très longtemps, d'avoir sa propre marque nationale de voitures électriques, ce qui n'existe pas, ce qui ferait passer le Brésil à autre chose, puisque jusqu'à présent, le Brésil n'était qu'un assembleur de voitures pour des marques étrangères. Ça permet de comprendre le symbole de tout ce qu'on se dit.
Donc le Brésil, comme d'autres pays latino-américains aujourd'hui, sont très vigilants à ne pas subir leur relation avec la Chine, vraiment avoir cette relation d'interdépendance, comme vous le disiez. Une démarche donc inverse de ce qui a longtemps prédominé avec les États-Unis, cette dépendance commerciale aux États-Unis dont le continent latino-américain était en quelque sorte prisonnier. Mais les États-Unis, eux, ne comptent pas laisser la Chine prendre leur place, dit ici le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.
L'administration Obama s'est désintéressée de la question et a laissé la Chine envahir toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale avec son influence économique et culturelle. La Chine a conclu des accords avec les gouvernements locaux pour développer de mauvaises infrastructures, élargir sa surveillance et encourager l'endettement. Le président Trump a déclaré « C'est fini, nous reprenons le contrôle de notre arrière-cour ». Voilà pourquoi j'étais présent à la conférence des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Nous allons investir tout en respectant les intérêts des Américains dans notre arrière-cour. Nous allons stopper la sphère d'influence chinoise.
notre arrière-cour. C'est vraiment le terme qui est utilisé, voilà, qui donne des arguments, bien sûr, à la Chine. Les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes entendent construire leur propre destin et non servir d'arrière-cour à quel pays que ce soit, a dit un officiel chinois pendant le forum qui a eu lieu le 13 mai à Pékin avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais comment, Sébastien Velu, comment ces pays, au nom de qui, lui aussi, pense pouvoir parler, entre parenthèses, peuvent s'assurer que leur relation avec la puissance chinoise sera équitable? Ce qui n'était pas le cas avec les États-Unis. Donc, en quelque sorte, la même question que j'ai posée à Christophe Ventura tout à l'heure.
C'est vrai que, de la part des officiels américains, reprendre ce vocabulaire de l'arrière-cour n'est pas forcément extrêmement adroit. Mais bon, ce n'est pas ce qui caractérise actuellement l'administration américaine.
D'être subtil.
D'être subtil, oui. Je crois qu'avec la Chine, les pays latino-américains ont l'idée qu'ils peuvent construire, je dirais, presque de zéro une nouvelle relation, alors que avec les États-Unis, il y a un passif qui est extrêmement lourd, et donc notamment de relations commerciales, mais aussi de relations politiques, d'intervention des États-Unis, notamment à l'occasion d'un certain nombre de coups d'État, dont peut-être que le plus célèbre est celui de 73 au Chili, la Chine n'apparaît pas comme portant ce type de menace d'ingérence politique au même niveau que les États-Unis. Pour le moment, le discours, c'est un discours sur les questions commerciales. Et là-dessus, tout le monde se dit qu'il y a des intérêts partagés. Hein, c'est du gagnant-gagnant. Et puis, d'autre part, les interventions politiques sont beaucoup plus subtiles de la part des Chinois, plutôt pour rapprocher les pays latino-américains de leur propre position sur la scène internationale, mais sans interférer dans la vie politique locale. Alors, c'est par exemple le cas dans le fait que de plus en plus de pays latino-américains reconnaissent la République populaire de Chine comme la seule Chine, alors qu'il y a encore pas très longtemps, un certain nombre d'entre eux reconnaissaient Taïwan. Donc ça, c'est un point très important pour les Chinois et ils ont un soutien de la part des pays latino-américains.
Mais elle le leur a demandé en quelque sorte,
oui.
Ou ce sont eux qui ont pris cette initiative?
Oui, ils leur demandent.
Donc ils s'en mêlent un peu de la politique.
Très gentiment, mais avec une certaine insistance.
Est-ce que c'est tous ces pays, on n'a pas parlé de l'Argentine, d'ailleurs un cas intéressant, l'Argentine un peu le contre-exemple de tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission, puisque depuis l'arrivée de Javier Milei, au contraire, le pays s'est rapproché encore des États-Unis. Alors je ne sais pas ce que sont devenus les projets engagés avec la Chine du temps de son prédécesseur, les barrages en Patagonie, le projet de centrale nucléaire près de Buenos Aires, ils sont pour certains à l'arrêt, pour d'autres en suspens. Est-ce que ces États ont une approche commune néanmoins? Alors, à part l'Argentine, mais tous ces pays dont on parle depuis le début, est-ce qu'ils se parlent entre eux pour être plus forts au moment des négociations avec la Chine, ou ça se fait de façon chacun dans son coin? Et je crois que là-dessus, vous n'êtes pas totalement d'accord. Alors, Sébastien Velu, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qu'on voit, malheureusement, pour le moment, c'est que les pays latino-américains, ils y vont surtout en ordre dispersé, même s'il y a des sommets bi-régionaux, comme celui dont on a parlé au début de l'émission. Au fond, il y a surtout du bilatéral de la part de la Chine avec ces pays les pays latino-américains qui ont défait un certain nombre de structures de coopération qui ont existé par le passé, notamment l'UNASUR qui était à l'échelle précisément de l'Amérique du Sud qui s'est, désagrégé il y a maintenant presque 10 ans. Et de ce fait, ils ont une faible capacité à parler ensemble. Et puis, ensemble, ils sont aussi sur des positions assez différentes du point de vue des positionnements politiques. Évidemment, vous étiez Milei, mais les positions des autres pays latino-américains sont loin d'être alignées.
Christophe Ventura, c'est vrai que c'est un enjeu, savoir comment les pays pourraient s'unir pour peser davantage et pour éviter ces relations asymétriques avec la puissance chinoise.
C'est tout l'enjeu effectivement des prochaines années, parce que peut-être même pour recontextualiser un peu ce qu'on se dit, il faut savoir qu'on part d'une région, l'Amérique latine, qui va devenir l'un des cœurs en fait de la rivalité sino-américaine. C'est ça qui est derrière les propos du secrétaire de la Défense ou la politique au Panama, etc., de l'administration Trump, etc. C'est que l'Amérique latine va redevenir, à mon sens, un carrefour assez central du rapport de force entre les Chinois et les États-Unis. Donc c'est ça qui doit interpeller tous les gouvernements latino-américains, indépendamment de leur couleur politique. Et le problème, un peu dans le prolongement de ce que disait Sébastien, actuellement, la photographie actuelle de l'Amérique latine n'est pas pas propice à l'unité régionale. Il n'y a pas de voix latino-américaine aujourd'hui dans le monde, sur tous les grands conflits existants. Il n'y a pas non plus de voix latino-américaine dans les relations avec les États-Unis ou la Chine. Il y a tellement de divergences aujourd'hui entre l'Argentine de Milei, le Brésil de Lula, l'Équateur de Noboa, etc., etc., que du coup, il n'y a pas de voix latino-américaine. Donc, tout le monde y va effectivement en ordre dispersé, mais c'est ça qui doit les interpeller. C'est comment ne pas être trop dépendant des Chinois, mais ni des Américains. C'est la question, la voie est étroite pour le 21e siècle, pour les latino-américains, du fait, pourquoi ça va être le terrain de bataille? Mais à cause des ressources naturelles, tout simplement, comme toujours, les ressources naturelles, les richesses en fait latino-américaines qui attisent les convoitus des deux superpuissances de ce siècle qui se battent pour, pour la suprématie mondiale. Et ça va se jouer là en partie.
Et des pays latino-américains qui parlent chacun de son côté. On parlera juste après le court extrait musical de Cuba et de son président Miguel Díaz-Canel.
Sin reservas, porque ahora solo quedan ruinas. Amar sin medida, porque ahora llena de heridas. Amar es tan brutal, ya he sido derrotada. Todo es por nada.
Une chanteuse chinoise qui chante en espagnol, Gloria Tang Zikei, chanteuse de mandopop, qui est née à Shanghai. Elle chante ici El Joven y el Mar, ça veut dire le jeune homme et la mer. Dans cette série, on a parlé de Nixon renversé, de Deng Xiaoping renversé, alors pourquoi pas un Hemingway renversé, pour le dernier épisode de notre série sur les partenariats à la chinoise en Amérique latine, les nouvelles routes des affaires ou comment Pékin à la fois cherche à consolider des relations commerciales pour affronter la guerre commerciale que lui livrent les États-Unis, mais aussi se pose comme partenaire fiable vis-à-vis des pays eux aussi concernés par les surtaxes imposées par Donald Trump, Cuba se laisse aussi convaincre.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le président cubain Miguel Díaz-Canel n'était pas à Pékin le 13 mai. Il a en revanche rencontré Xi Jinping quelques jours plus tôt à Moscou lors des commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie. Il y a 65 ans, Cuba était le premier État des Amériques à reconnaître la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, il compte en partie sur l'aide chinoise pour soulager les très lourdes pénuries de tous ordres qui affectent le quotidien des Cubains. Bonjour Thomas Posado.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen, chercheur à l'ERIAC, qui est l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles. D'abord, quelle est la nature des échanges commerciaux entre Cuba et la Chine? Que lui vend et que lui achète Cuba à la Chine?
Faut savoir que cette dynamique entre Cuba et la Chine, elle correspond à ce qui vient d'être dit dans le reste de l'émission, c'est-à-dire que la Chine est un des principaux partenaires commerciaux de Cuba, le deuxième ou le premier selon les années avec le Venezuela. Concernant les échanges, Cuba bénéficie d'importations chinoises en termes d'équipements mécaniques, de bus, de voitures, de matériel agricole qui manque dans l'île, d'appareils électriques, électroménagers. À l'inverse, Cuba exporte essentiellement du nickel, des aliments en tout genre, du sucre, des fruits de mer, mais aussi, ce qui est une spécificité de Cuba, cet investissement dans la santé, et donc exporte des produits biotechnologiques, des médicaments, dont l'investissement dans la santé est reconnu, même s'il est aujourd'hui en crise, dans l'île des Caraïbes.
La Chine est une alliée de longue date de Cuba, qui a été parmi les premiers à reconnaître la République populaire de Chine en 1961, qui a soutenu la révolution cubaine. Néanmoins, pendant la guerre froide, Cuba a été beaucoup plus proche de l'URSS que de la Chine. Comment est-ce que ça a entaché leurs relations? Comment la Chine a-t-elle plus tard pris la place qu'elle occupe aujourd'hui?
Alors, dans les toutes premières années, le renversement de Batista et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, la révolution cubaine fait qu'il y a une phase de lune de miel, où la Chine effectivement devient le premier État des Amériques à reconnaître la République populaire de Chine à un moment où ce n'était pas le cas dans le reste du continent. Par contre, dans le cadre du détention sino-soviétique, Cuba s'est clairement rangé du côté de l'URSS, et c'est que dans les années 80, où l'aide soviétique commence à faiblir, que Cuba se rapproche de la Chine, et où cette dynamique va aller crescendo, de fait, par le départ brutal de l'Union soviétique de l'île, et de fait trouvant dans la Chine un partenaire commercial naturel qui n'est pas sensible aux pressions des États-Unis et qui est susceptible d'être une grande puissance, susceptible d'acheter en masse le sucre, le nickel dont Cuba a besoin.
Est-ce que la Chine a une stratégie...
Dont Cuba a besoin de vendre.
Oui, que Cuba a besoin de vendre. Est-ce que la stratégie de la Chine est un peu similaire à celle de l'URSS à l'époque, ou est-ce qu'elle a d'ailleurs une stratégie à Cuba?
Alors, je dirais que dans le premier temps, dans les années 80 et jusqu'aux années 2000-2010, on a une stratégie qui est une stratégie beaucoup moins politique de la part de la Chine à l'égard de en comparaison avec l'URSS, c'est-à-dire que la Chine vend à des conditions beaucoup moins favorables que ne vendait l'URSS à l'époque, parce que la Chine agit comme une puissance commerciale, pas comme une puissance géopolitique, essayant de trouver en Cuba un poste avancé à l'égard des États-Unis. C'est peut-être quelque chose qui est en train de changer, vu les tensions croissantes avec les États-Unis. En 2023, il y a eu une polémique autour de l'installation potentielle de bases secrètes qui pourraient espionner le sud des États-Unis, alors choses qui ont été déniées par la Chine et par Cuba, mais qui montrent que potentiellement à terme, la Chine pourrait utiliser Cuba comme poste avancé dans le cadre d'une lutte géopolitique frontale avec les États-Unis. Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était des simples relations commerciales dans un cadre extrêmement contraint pour Cuba, dans le cadre de l'embargo que fait subir les États-Unis à l'île.
La base de surveillance et cette base d'écoute chinoise que le Wall Street Journal et CNN affirment exister, ou en tout cas c'est un objet de négociation d'après ces médias, entre Cuba et Pékin, un accord qui permette à Pékin d'installer une base d'espionnage à moins de 200 km des côtes de Floride, donc de quoi déclencher une véritable crise si l'information était avérée, parce que et Cuba et la Chine démentent pour l'instant. Thomas Posado, en attendant, comment la Chine contribue ou pas à soulager Cuba de toutes les pénuries dont on a encore eu l'occasion de parler récemment dans Culture Monde, notamment les pénuries, les coupures de courant quotidiennes jusqu'à 20 heures par jour hors de la Havane, qui, la capitale, subit déjà plus de 2 heures par jour de coupures de courant, c'est beaucoup, beaucoup plus hors de la Havane. Est-ce que la Chine, aujourd'hui, est impliquée, par exemple, dans les différents projets de développement d'énergie solaire ?
Oui, tout à fait. Il y a des projets d'une cinquantaine de parcs solaires qui pourraient être implantés dès cette année à Cuba. Effectivement, enfin, Cuba connaît des problèmes dans son réseau électrique assez profond, et des apagones souvent au point, des coupures de courant au point où on compte dans certaines zones isolées davantage d'heures de présence de courant que d'heures
d'absence
d'heures d'absence de courant que de que de présence. Et à cela, le gouvernement chinois donc a proposé l'aide, enfin est en train d'établir donc cette cinquantaine de parcs solaires dans l'île qui pourraient permettre de pallier à ces déficiences et de pallier à ce réseau de centrales thermiques qui sont vieillissantes et qui sont la principale raison de ces apagones récurrents dans l'île. Après, enfin voilà, on est dans une période de création de ces parcs solaires. On ne sait pas si cette énergie va pouvoir solutionner les problèmes que vivent les Cubains aujourd'hui.
Cuba veut construire une petite centaine de parcs photovoltaïques et dit que ça couvrirait la moitié de ses besoins en électricité. Alors la Chine avait déjà au début des années 2010 financé un projet de parc éolien dans la province de Las Tunas qui devait être équipé de 54 turbines mais qui finalement n'a jamais vu le jour. La Chine est peut-être devenue entre guillemets plus regardante sur ce qui est fait de son argent. Est-ce qu'on a une idée dans quelle mesure les grandes difficultés économiques dans lesquelles se trouve Cuba aujourd'hui, beaucoup à cause de l'embargo américain, mais aussi à cause d'une très mauvaise gestion de l'argent par les autorités cubaines, si cette question-là est centrale dans les éventuels échanges qui ont lieu en ce moment entre la Chine et Cuba?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a à la fois cette dimension où la Chine a besoin d'avoir un retour sur son argent et à la fois une conscience que Cuba est une des rares puissances qui ne va pas être sensible aux pressions états-uniennes. Enfin, vous en parliez au début de l'émission, mais toutes les cas que vous avez évoqués, la Colombie, le Pérou, le Brésil, vont subir la pression des États-Unis, surtout dans ce moment tendu de la présidence Trump. Cuba n'a rien à perdre du côté états-unien, alors a moins à offrir peut-être que des grandes puissances comme le Pérou, la Colombie ou le Brésil, mais a une position stratégique à quelques centaines de kilomètres, à une centaine de kilomètres des côtes de Floride.
Merci.
Qui est décisif pour la Chine.
Merci beaucoup Thomas Posado d'avoir été avec nous. C'est vrai que Cuba n'a rien à perdre à se rapprocher de la Chine puisque de toute façon avec les États-Unis les relations sont plus qu'au point mort, enfin ou moins qu'au point mort, je ne sais pas comment le formuler, Christophe Ventura. C'est pas le cas de tous les États dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'où peuvent-ils s'offrir entre guillemets à la Chine sans se mettre complètement à dos les États-Unis, alors que vous disiez tout à l'heure vous-même que Lula, par exemple, ne souhaite pas se fâcher avec les États-Unis.
Oui, on est dans un cas très différent avec Cuba, qui est un cas spécifique quand même en Amérique latine. Oui. Écoutez, Cuba n'a pas vraiment d'autres solutions non plus. Je veux dire, ils sont étouffés par l'embargo américain, qui est quand même, faut le rappeler, le plus vieux de la planète, toujours en vigueur. Il a été sévèrement renforcé par Donald Trump 1, c'est-à-dire durant le premier mandat de Trump, et puis Biden n'a pas quasiment modifié cela. Trump a encore serré encore plus la vis en remettant Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme, la liste américaine. Bref, l'économie est asphyxiée à Cuba littéralement. Donc en fait, le problème de Cuba c'est avec les États-Unis, c'est un, que son sort est un sujet de politique intérieure pour Washington. Ça, c'est un premier point qui donne sa spécificité. Deux, que le pays subit les pression maximale des États-Unis. Et donc, trois, les Cubains, par affinité et histoire idéologique, je veux dire, c'est sûr qu'ils sont ils se mettent dans la main des Russes et des Chinois, mais ça a été dit par Thomas Posado, il faut le souligner. Aujourd'hui, les Chinois, et vous l'avez dit aussi, Cuba, ils sont encore là-bas, mais je veux dire, ils ont quand même bien ralenti les relations.
Merci beaucoup. Sébastien Velu, un petit mot à ce sujet, pour conclure.
Oui, deux choses. La relation Chine-Cuba, elle est en train quand même de se renforcer fortement. Et là, on voit de plus en plus de Chinois, en fait, dans les rues de la Havane, notamment. Par exemple, le tourisme. Alors, ça paraît innocent, mais quand même, c'est des présences, des flux d'argent, voilà.
Une liaison Pékin-La Havane a rouvert, d'ailleurs. Elle avait été stoppée par le Covid. Elle avait ouvert en 2015 et elle est de nouveau opérationnelle.
Mais si on se demande jusqu'où pourront-ils aller plus loin avec ou trop loin? Je crois qu'il y a un sujet sensible, c'est le sujet en fait de la sécurité. Et là, les États-Unis se retirent. La Chine, pour l'instant, ne semble pas avoir d'intérêt géostratégique affirmé, ne parle pas d'ouvrir des bases en Amérique latine, même s'il y a quelques sites qui peut-être pourraient en faire partie. Mais Là, il y a un enjeu de sécurité pour Washington.
Oui, Washington qui soupçonne toujours, dès qu'un port est financé par la Chine, que ce port puisse devenir un jour une base militaire. Et c'est ce qui est dit aux pays d'Amérique latine. Faites attention. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous pour conclure cette série sur la Chine et ses nouveaux partenariats. Sébastien Velu, Christophe Ventura, merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale. La revue de presse internationale avec Estelle Kammerer ce matin, et vous nous emmenez en Namibie où a eu lieu hier la première commémoration officielle du génocide commis par les Allemands pendant la colonisation.
Il aura fallu près de 120 ans aux Namibiens pour commémorer officiellement ce massacre peu connu, surnommé le génocide oublié de l'Allemagne et considéré comme le premier génocide du XXe siècle par les historiens, peut-on lire dans le journal The Namibian. Entre 1904 et 1908, 65 000 hereros et 10 000 Nama ont été tués après avoir rejeté la domination coloniale allemande dans ce pays d'Afrique du Sud-Ouest, soit 80% et 50% de leur population respective à l'époque, selon les estimations. Tués, torturés et utilisés pour des expériences pseudo-scientifiques dans des camps de concentration, près de 40 ans avant leur utilisation lors de l'Holocauste, rappelle The Namibian. Le journal a couvert la cérémonie, minutes de silence, bougies en mémoire des victimes et discours dans les jardins du Parlement de la capitale Windhoek, à côté de l'Altefest, l'un des anciens camps de concentration. Au micro, la première femme présidente du pays, Netumbo Nandi Ndaitwa, est revenue sur les douleurs du génocide. La Namibie est l'un des pays les moins peuplés. Mais à quoi nous nous attendions alors que nous avons perdu autant de nos concitoyens? Il nous faudra des années pour nous en remettre. En effet, la Namibie a une population d'environ 2,6 millions habitants. Sa densité est la plus faible d'Afrique et l'avant-dernière au niveau mondial. La présidente a aussi réitéré ses demandes de réparation à l'Allemagne. Un premier accord a reconnu que le massacre constituait un génocide en 2021 seulement. Mais le gouvernement demande plus de négociations. La cérémonie s'est terminée par des chants et des danses traditionnelles. Le 28 mai est donc devenu férié en Namibie, car c'est ce jour-là que les autorités allemandes ont annoncé la fermeture des camps de concentration à la suite de critiques internationales, rapporte The Namibian.
Mais le choix du jour de la date est contesté par les descendants des victimes.
Qui aurait préféré un choix plus symbolique? Dans les colonnes du Namibian et du New Era, on apprend que des groupes comme la Ligue des Jeunes ont proposé le 12 avril et le 2 octobre comme date alternative, les dates du début du génocide. Les communautés ont également critiqué le choix du lieu de la cérémonie, les jardins du Parlement, et demandent un système de rotation sur des lieux historiques. Dans une déclaration citée par The Namibian, la Ligue de la Jeunesse explique vouloir une approche plus inclusive de la commémoration pour que l'histoire soit transmise avec précision aux générations futures. De leur côté, les dirigeants des communautés Ova, Herero et Nama ont annoncé dans une lettre qu'ils ne participeraient pas à la journée officielle de commémoration du génocide, expliquant que le gouvernement ne les a pas assez inclus dans le programme. Un appel au boycott a été relayé dans les colonnes du Windhoek Observer, où l'on apprend également que des communautés ont tenu leur propre cérémonie, et ce depuis longtemps. Traditionnellement, des journées de commémoration non officiels se font le 2 octobre. The Namibian mentionne aussi les critiques des familles des victimes vis-à-vis de l'accord de 2021 avec l'Allemagne. Elles disent avoir été exclues des négociations et jugent les réparations insultantes. Elles sont à hauteur de 1 milliard de dollars namibiens, soit 50 millions d'euros. Dans une déclaration commune citée également par le journal, les militants disent que l'accord est une preuve d'un état d'esprit raciste de la part de l'Allemagne et d'une soumission néocoloniale de la part de la Namibie. Ils souhaitent que le gouvernement allemand rachète les terres ancestrales actuellement aux mains de la communauté germanophone et les restitue aux descendants Ova Herero et Nama.
Alors pour la dernière partie de votre revue de presse internationale, Estelle Kammerer, vous parlez d'un tout autre sujet, puisque cette semaine et comme chaque année, les Anglais, nous dites-vous, ont couru après un fromage.
À Gloucester, au Royaume-Uni, ils ont quelque chose de très spécial et d'assez dangereux. Tendez l'oreille.
I just want to roll down and hopefully not break anything. Yeah.
Ce que vous entendez, ce sont les concurrents du Cheese Rolling Contest qui dévalent la pente du Copper's Hill pour attraper un fromage. L'un d'eux, interrogé par le média en ligne Urban Picture, dit qu'il va se lancer et espère ne rien se casser, car la pente a l'air très abrupte. Le Guardian raconte que cette course existe depuis 1826, soit presque 200 ans. Le but, rattraper une meule de 3,6 kg de double Gloucester. Des casse-cou se lancent donc chaque année après la meule dans une pente normalement glissante, voire boueuse. Le premier arrivé en bas gagne le fromage. Et cette fois, le temps était très sec, mais ça n'a pas arrêté les casse-cou, rapporte Sky News. Le média britannique explique aussi que le concours n'est plus officiel depuis 2010, car il est trop dangereux. Mais l'événement revient quand même tous les ans, surveillé de près par la police. Deux courses sont organisées, une pour les femmes, une pour les hommes. À la fin de sa course, le gagnant, un youtubeur de 24 ans, qui gagne pour la deuxième fois consécutive, dit au Guardian avoir risqué sa vie pour cette meule de fromage. Quant à la gagnante, elle en a profité pour lever des fonds pour une association qui vient en aide aux réfugiés.
Revue de presse internationale signée Estelle Kammerer.